Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Couvezia, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien. Une bonne chose. Et toi?
Parfaitement.
Bon,
parfaitement.
C'est sûr.
De qui, de quoi nous parles-tu aujourd'hui?
Du dernier roman de Laurent Binet. Il avait écrit un premier roman, c'est son deuxième roman. Pour son premier roman, il avait reçu une récompense, un prix Goncourt du premier roman. Et donc ce deuxième roman s'intitule « La septième fonction du langage ». Et donc on va parler sémiologie. Non, je te rassure. C'est juste un prétexte. En fait, dans ce roman, il se place plein de choses. Le point de départ, c'est la mort qu'on croit accidentelle d'un grand sémiologue français qui s'appelle Roland Barthes, Barthès, comme dirait Nicolas Sarkozy. Voilà. Et donc c'est le point de départ du roman. Et en fait, Roland Barthes se fait renverser par un livreur de vêtements, donc par une camionnette, alors qu'il sort d'un déjeuner avec François Mitterrand. Ça se passe en 1980, donc juste avant l'élection présidentielle, qui va voir François Mitterrand et la gauche accéder au pouvoir présidentiel pour la première fois. T'as levé le point. Et donc, en fait, ça va être louche. Ça va être bizarre quand même. Un sémiologue qui meurt renversé par une camionnette après un déjeuner avec celui qui va gagner l'élection présidentielle, c'est vraiment bizarre. Donc, il y a les RG qui vont s'en mêler. Et donc, il y a un enquêteur qui s'appelle Jacques Bayard. Voilà, giscardien, ancien d'Algérie, facho, enfin tout ce qu'on veut.
Malheureusement, Pasqua ne peut plus témoigner.
Voilà. Et donc, il va être chargé d'enquêter, parce qu'au début, ce qui aurait pu paraître être un accident, en fait, il y a des choses qui font penser que ça pourrait être malgré tout une tentative réussie de meurtre, puisque quand Roland Barthes arrive à l'hôpital, on s'aperçoit qu'il n'a plus ses papiers d'identité. Et surtout, il manque un document qui pourrait être compromettant pour la République. Donc lui, il va enquêter. Et en fait, il va enquêter dans des milieux où il n'est pas habitué. Enfin, pour les cas, il n'est jamais allé. Université de Vincennes, où il n'y a que des hippies, des gauchistes, qui font plein de choses, etc. Dans les milieux intellectuels, où on va voir Michel Foucault, etc. Donc, des boîtes de nuit gays, où il y a des partous. Donc, lui, il va donc ça, alors qu'il est homophobe, etc. Et pour se faire aider, on va dire, entre guillemets, intellectuellement, eh bien, il va réquisitionner un jeune prof qui s'appelle Simon Herzog et qui va lui décrypter à chaque fois ce que les intellectuels lui disent et pourquoi, en fait, Roland Barthes aurait pu être tué.
Moi, dans mes regards à vous, je vous fixais en vis-à-vis et vous parlais en apartous tout en vous envoûtant en douce. Vous étiez ma travlolita. Je vous prenais sans tralala, peuplant de fantômes fantastiques, vos rêves d'enfant asthmagorique.
Tu es un imposteur, un peu sera moqueur. T'as gravé dans ton cœur un sourire accrocheur.
Je vous offrais des arômes fatales au pili-pili conjugal, piquant vos yeux de cumulus. Je vous suçais en cumilingus. Vous étiez mon estragonzesse que jamais en papri caresse. Dans un plat de gingembre en l'air, épicé de parfums amers.
Tu es un imposteur, imposera mon cœur.
chattes sont chaudes et votre beauté chatanique brûlait mes vices et mes fautes dans un enfer salé d'Afrique. Mon corps ardent souillait votre linge et sans vous faire de louanges, vous posant des lapins, mon ange, je vous payais en monnaie de singe.
Tu es un imposteur, un poseur à mon cœur. T'as gravé dans ton cœur un sourire accrocheur.
De bout en bout, du tout au tout, les bouts à bout étaient en vous. Le jour, la nuit, le jour, je vous parcours d'aller-retour. Ma petite souris stérile, je vous désire pour nostalgie. Je vous veux à l'amour, à la mort, dans un décor tragique en l'or. Je suis un imposteur, imposeur à mon cœur. J'ai gravé dans mon cœur un sourire accrocheur. Je suis un imposteur, imposeur à mon cœur. J'ai gravé dans mon cœur un sourire accrocheur.
On attaque un premier extrait qui pose le décor. La vie n'est pas un roman, c'est du moins ce que vous voudriez croire. Roland Barthes remonte la rue de Bièvre. Le plus grand critique littéraire du XXe siècle a toutes les raisons d'être angoissé au premier degré. Sa mère est morte, avec qui il entretenait des rapports très proustiens. Et son cours au Collège de France, intitulé « La préparation du roman », s'est soldé par un échec qu'il peut difficilement se dissimuler. Toute l'année, il aura parlé à ses étudiants de haïku japonais, de photographie, de signifiant et de signifié, de divertissement pascalien, de garçon de café, de robe de chambre ou de place dans l'amphi, de tout sauf du roman. Et ça va faire 3 ans que ça dure. Il sait forcément que le cours lui-même n'est qu'une manœuvre dilatoire pour repousser le moment de commencer une œuvre vraiment littéraire, c'est-à-dire qui rende justice à l'écrivain hypersensible qui sommeille en lui et qui, de la vie de tous, a commencé à bourgeonner dans ses fragments d'un discours amoureux, déjà la Bible des moins de 25 ans. De Sainte-Beuve à Proust, il est temps de muer et de prendre la place qui lui revient au panthéon des écrivains. Maman est morte. Depuis le degré zéro de l'écriture, la boucle est bouclée, l'heure est venue. La politique, ouais, on verra ça. On ne peut pas dire qu'il soit très maoïste depuis son voyage en Chine. En même temps, ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Chateaubriand, La Rochefoucauld, Brecht, Racine, Robe Grillée, Michelet, Maman. L'amour d'un garçon, je me demande s'il y avait déjà des vieux campeurs partout dans le quartier. Dans un quart d'heure, il sera mort. Je suis sûr que la bouffe était bonne rue des Blancs-Manteaux. J'imagine qu'on mange bien chez ces gens-là. Dans Mythologie, Roland Barthes décode les mythes contemporains érigés par la bourgeoisie à sa propre gloire. Et c'est avec ce livre qu'il est devenu vraiment célèbre. En somme, d'une certaine manière, la bourgeoisie aura fait sa fortune. Mais c'était la petite bourgeoisie. Le grand bourgeois qui se met au service du peuple est un cas très particulier qui mérite analyse. Il faudra faire un article. Ce soir, pourquoi pas tout de suite? Mais non, il doit d'abord trier ses diapos. Roland Barthes presse le pas sans rien percevoir de son environnement extérieur. Lui qui est pourtant un observateur né, lui dont le métier consiste à observer et analyser, lui qui a passé sa vie entière à traquer tous les signes. Il ne voit véritablement ni les arbres, ni les trottoirs, ni les vitrines, ni les voitures du boulevard Saint-Germain qu'il connaît par cœur. Il n'est plus au Japon, il ne sent pas la morsure du froid, à peine entend-il les bruits de la rue. C'est un peu comme l'allégorie de la caverne à l'envers. Le monde des idées dans lequel il s'est enfermé obscurcit sa perception du monde sensible. Autour de lui, il ne voit que des ombres. Les raisons que je viens d'évoquer pour expliquer l'attitude soucieuse de Roland Barthes sont toutes attestées par l'histoire, mais j'ai envie de vous raconter ce qui est vraiment arrivé. Ce jour-là, s'il a la tête ailleurs, ce n'est pas seulement à cause de sa mère morte, ni de son incapacité à écrire un roman, ni même de la désaffection croissante et, juge-t-il, irrémédiable des garçons. Je ne dis pas qu'il n'y pense pas, je n'ai aucun doute sur la qualité de ses névroses obsessionnelles. Mais aujourd'hui, il y a autre chose. Au regard absent de l'homme plongé dans ses pensées, le passant attentif saurait reconnaître cet état que Barthes croyait ne plus jamais éprouver, l'excitation. Il n'y a pas que sa mère, ni les garçons, ni son roman fantôme. Il y a la soif de se avoir, et avec elle, réactivée, l'orgueilleuse perspective de révolutionner la connaissance, la reconnaissance humaine et peut-être de changer le monde. Barthes se sent-il comme Einstein en train de penser à sa théorie lorsqu'il traverse la rue des écoles? Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas très attentif. Il lui reste quelques dizaines de mètres pour arriver à son bureau quand il se fait percuter par une camionnette. Son corps produit le son mat, caractéristique horrible, de la chair qui heurte la tôle et va rouler sur la chaussée comme une poupée de chiffon. Les passants sursautent. En cet après-midi du 25 février 1980, ils ne peuvent pas savoir ce qui vient de se produire sous leurs yeux, et pour cause, puisque jusqu'à aujourd'hui, le monde l'ignore encore. Voilà une belle introduction.
Konrad Veit, Konrad Veit, Konrad Veit.
Donc il y a un peu de tout dans cette introduction. Il y a à la fois le grand homme inconnu, le grand intellectuel français qui tarde à s'affirmer. Et puis il y a un contexte, bien sûr, politique, comme je l'indiquais tout à l'heure, et cette année d'avant, donc il y a l'élection présidentielle. Donc, notre inspecteur DRG vient de recruter contre sa volonté donc ce jeune prof à Nanterre. Et donc, Jacques Bayard, il essaie de comprendre ce que c'est que la sémiologie. Et il propose donc à ce jeune prof d'aller boire un café pour qu'il lui explique. Et bien sûr, ils vont à la cafétéria de l'université. Ils y sont. Mais Bayard ne voit rien du tout. Les deux hommes traversent la cafétéria. C'est une espèce de hangar dévasté, saturé par des odeurs de merguez, de crêpes et d'herbes. Un grand type dégingandé en bottes de lézard mauve est debout sur une table, la clope au bec, une bière à la main. Il harangue des jeunes qui l'écoutent, les yeux brillants. Vu que Simon Herzog n'a pas de bureau, il invite Bayard à s'asseoir et machinalement lui offre une cigarette. Bayard refuse, sort une gitane et reprend. Concrètement, ça sert à quoi cette science ? Eh bien, à comprendre le réel. Bayard grimace imperceptiblement, c'est-à-dire... Le jeune thésard prend quelques secondes pour réfléchir. Il jauge la capacité d'abstraction de son interlocuteur, manifestement limitée, pour adapter sa réponse en fonction, sans quoi ils vont tourner en rond pendant des heures. En fait, c'est simple. Il y a des tas de choses dans notre environnement qui ont une fonction d'usage. Vous voyez ? Silence hostile de son interlocuteur. À l'autre bout de la salle, le type aux bottes de lézard mauve raconte à ses jeunes disciples la grande geste de 68 qui, dans sa bouche, ressemble à un mélange de Mad Max et de Woodstock. Simon Herzog essaie de simplifier au maximum. Une chaise sert à s'asseoir, une table à manger dessus, un bureau à travailler, un vêtement à tenir chaud, etc. D'accord ? Silence glacial. Il continue. Sauf qu'en leur donnant leur fonction de leur utilité, ces objets sont également dotés d'une valeur symbolique. Comme s'ils étaient doués de paroles, si vous voulez, ils nous disent des choses. Cette chaise, par exemple, sur laquelle vous êtes assis, avec son degré zéro du design, son mauvais bois verni et son armature rouillée, nous dit que nous sommes dans une collectivité qui n'a aucun souci de confort ni d'esthétique qui n'a pas d'argent. Ajoutez à cela ces odeurs mélangées de mauvaises cantines et de cannabis, nous confirme que nous sommes dans un lieu universitaire. De la même manière, votre façon de vous habiller signale votre profession. Vous portez un costume, ce qui trahit un emploi de cadre, mais vos vêtements sont bon marché, ce qui implique un salaire modeste et ou une absence d'intérêt pour votre apparence. Vous faites donc un métier où la présentation ne compte pas ou peu. Vos chaussures sont très abîmées alors que vous êtes venu en voiture. Cela signifie que vous ne restez pas derrière un bureau, mais que vous faites un travail de terrain. Un cadre qui sort de son bureau a toutes les chances d'être affecté à un travail d'inspection. Je vois, dit Bayard. Long silence pendant lequel Simon Herzog peut entendre l'homme en bottes de lézard mauve raconter à son auditoire fasciné comment à l'époque où il était à la tête de la fraction armée spinoziste, il a vaincu les jeunes hégéliens. Ceci dit, je sais où je suis, c'est écrit Université de Vincennes, Paris 8 à l'entrée. Et il y a aussi marqué Police, en gros sur la carte tricolore que je vous ai montrée quand je vous ai abordé à la fin de votre cours, donc je ne comprends toujours pas très bien où vous voulez en venir. Simon Herzog commence à transpirer. Cette conversation lui rappelle des souvenirs douloureux d'oraux d'examen. Ne pas paniquer, se concentrer, ne pas se focaliser sur les secondes qui s'égrènent dans le silence, ignorer l'air faussement benoît de l'examinateur sadique qui jouit intérieurement de sa supériorité institutionnelle et de la souffrance qu'il inflige parce qu'il l'a subi lui aussi dans le passé. Le jeune thésard réfléchit vite, observe attentivement l'homme qu'il a en face de lui, procède méthodiquement, étape par étape, comme on lui a appris, et lorsqu'il se sent prêt, laisse encore passer quelques secondes, puis dit « Vous avez fait la guerre d'Algérie. Vous avez été marié deux fois, vous êtes séparé de votre deuxième femme, vous avez une fille de moins de 20 ans avec laquelle vos rapports sont difficiles. Vous avez voté Giscard aux deux tours de la dernière élection présidentielle. Et vous le referez l'an prochain. Vous avez perdu un coéquipier dans l'exercice de ses fonctions, peut-être par votre faute. En tout cas, vous vous le reprochez et ne vous sentez pas très à l'aise avec ça, mais votre hiérarchie a estimé que votre responsabilité n'était pas engagée. Et vous êtes allé voir le dernier James Bond au cinéma, mais vous préférez quand même un bon Maigret à la télé ou les films de Lino Ventura. » Très très long silence. À l'autre bout de la salle, Spinoza, réincarné, raconte sous les vivats de la foule comment lui et sa bande sont venus à bout du groupe Fourier Rose. Bayard murmure d'une voix blanche « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Eh bien, c'est très simple. Encore un silence, mais cette fois ménagé par le jeune prof. Bayard ne bronche pas, n'était un léger tressaillement dans les doigts de sa main droite. L'homme aux bottes de lézard, mauve, entame a cappella une chanson des Rolling Stones. Lorsque vous êtes venu me voir à la fin du cours, tout à l'heure, dans ma salle de classe, vous êtes spontanément placé de manière à ne tourner le dos ni à la porte ni à la fenêtre. Ce n'est pas à l'école de la police qu'on vous apprend ça, mais à l'armée. Le fait que ce réflexe vous soit resté signifie que votre expérience militaire ne s'est pas limitée à un service simple, mais vous a suffisamment marqué pour que vous en ayez conservé des habitudes inconscientes. Vous avez donc probablement combattu et vous n'êtes pas assez vieux pour avoir fait l'Indochine. Donc je pense que vous avez été envoyé en Algérie. Vous êtes dans la police, donc forcément de droite, comme le confirme votre hostilité de principe aux étudiants et aux intellectuels, manifeste depuis le début de notre conversation. Mais en tant qu'ancien d'Algérie, vous avez vécu l'indépendance accordée par De Gaulle comme une trahison, en conséquence de quoi vous avez refusé de voter pour Chaban, le candidat gaulliste, et vous êtes trop rationnel, qualité requise pour par votre métier, pour donner votre voix à un candidat comme Le Pen, qui ne pèse rien et n'a strictement aucune chance de jamais figurer au second tour. Donc votre vote s'est naturellement reporté sur Giscard. Vous vous êtes venu seul, ce qui, contraire à toutes les règles de la police française, où les policiers se déplacent toujours au moins par deux. Donc vous avez obtenu un régime spécial, une faveur qui n'a pu vous être accordée que pour un motif grave comme la perte d'un coéquipier. Le traumatisme est tel que vous ne supportez plus l'idée d'en avoir un nouveau et vos supérieurs vous ont autorisé à opérer en solo. Comme ça, vous pouvez vous prendre pour Maigret, qui, à en juger par votre imperméable, constitue pour vous une référence inconsciente ou non. Le commissaire Moulin, avec son blouson en cuir, est sans doute trop jeune pour que vous puissiez vous identifier et vous n'avez pas les moyens de vous habiller comme James Bond. Vous portez une alliance à la main droite, mais vous avez encore la marque d'un anneau à l'annulaire gauche. Vous avez sans doute voulu éviter une impression de répétition en changeant de main pour le second mariage, afin de conjurer le sort, en quelque sorte. Cela n'a pas suffi, apparemment, puisque votre chemise froissée à 7 heures matinale atteste que personne ne s'occupe du repassage chez vous. Or, conformément au modèle petit bourgeois, qui est celui de votre milieu socioculturel, votre femme, si elle vivait encore avec vous, ne vous aurait pas laissé sortir avec des vêtements non repassés. Voilà, ils se sont rencontrés, nos deux enquêteurs.
Je me demande comment quelqu'un comme toi fait pour être quelqu'un comme toi. Je ne comprends pas. Tu dis toujours ce qu'il faut quand il faut. Tu as tant d'amis autour de toi qui m'aiment que toi. La vie approche mon
La septième fonction du langage, de Laurent Binet.
Alors je vais vous lire l'incipit de l'histoire de ma fuite des prisons de Venise, de Giacomo Casanova, qui est en fait la première phrase du livre. Après avoir fini mes études, avoir quitté à Rome l'état d'ecclésiastique, avoir embrassé celui de militaire, l'avoir quitté à Corfou, entrepris le métier d'avocat, l'avoir quitté par aversion, et après avoir vu toute mon Italie, les deux Grèces, l'Asie mineure, Constantinople et les plus belles villes de France et d'Allemagne, je suis retourné à ma patrie l'année 1753, assez instruit, plein de moi-même, étourdi, aimant le plaisir, ennemi de prévoir, parlant de tout à tort et à travers, gai, vigoureux et me moquant, au milieu d'une bande d'amis de ma clique dont j'étais le gonfalonier, de tout ce qui me paraissait sottise, soit sacré, soit profane, appelant préjugé tout ce qui n'était pas connu aux sauvages, jouant gros jeu, trouvant égal le temps de la nuit à celui du jour, et ne respectant que l'honneur dont j'avais toujours le nom sur les lèvres plus par hauteur que par soumission, prêt, pour garantir le mien de toute tâche, à violer toutes les lois qui auraient pu m'empêcher une satisfaction, un dédommagement, une vengeance de tout ce qui avait l'apparence d'injure ou de violence. Ça, c'est de la première phrase, quand même.
C'est de la première phrase, mais pourquoi cette première phrase?
Elle m'a toujours fasciné, quoi. C'est à la fois... D'abord parce qu'elle est, elle est d'un classicisme absolument sublime, vraiment impeccable, tellement bien balancé, équilibré. Et puis en même temps, il se passe, c'est un roman à elle toute seule. Il se passe 10 000 choses en une seule phrase. Je trouve ça vraiment magnifique, quoi. Et la première phrase, oui, c'est l'essentiel. Quoique Valérie disait, la première phrase nous est donnée par les dieux, et ensuite, c'est du travail et de la sueur. Mais quand même, la première phrase, c'est vraiment c'est l'embrayage, quoi. On passe la première et ensuite, la route est longue, mais c'est la clé de contact, quoi.
Et vous y passez du temps? Vous y pensez comme ça, vous, quand vous commencez à écrire, Laurent Binet?
Non, j'y passe pas du temps, justement. Là, pour le coup, c'est à la Paul Valéry. C'est un truc, un jour, ça me vient sorti de nulle part. Et après, je me mets à bosser, quoi. Comment dire? Il y a aucune démarche volontaire au commencement d'un livre. C'est vraiment, je suis ouvert à mon environnement, au monde extérieur. Et puis je suis en tant que lecteur, en tant qu'observateur, je suis avide je suis curieux d'histoire et de connaissances. Et à un moment, je sais pas pourquoi, je me dis je pourrais en faire un livre.
À suivre.
Cléo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.